Je la mets sans mon 4x4. Je la mets sans mon 4x4. L'incinération, c'est bon pour les poumons.
Le réchauffement climatique, c'est vrai.
Et après, le soleil va taper plus fort.
Ça joue. On va avoir la grippe en guerre.
Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission d'Ecoforum de Radio Grenouille et aujourd'hui on va vous parler d'emploi. Aujourd'hui beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup sont en chômage, beaucoup ne savent pas quel métier on peut aujourd'hui essayer d'avoir sans avoir le problème de chômage. Donc aujourd'hui j'ai invité des associations qui recrutent, qui ont de l'emploi pour le moment. Je dis pour le moment parce que c'est toujours des projets très fragiles. J'ai pour une part Isabelle Pozzo de Cap Marseille, qui va nous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est cette association, voilà, tous les ingrédients de cette association. Et pour autre part, on a aussi avec nous Violaine Boré, de l'association Acta Vista.
Bonjour.
Qui va nous expliquer aussi comment ils font pour embaucher, parce qu'aujourd'hui, ça n'embauche pas beaucoup. Aujourd'hui, l'écologie, c'est beaucoup de fois, c'est à l'heure, parce qu'on parle beaucoup qu'il y a beaucoup d'emplois, mais quand on a son diplôme en main, des fois, ce n'est pas aussi évident que ça. Ça veut dire que ça ne suit pas l'offre et la demande. Donc, on va commencer tout de suite. Évidemment, je donne un grand bonjour à Caroline Legal, qui est l'animatrice, justement, de cette émission, qu'il n'a pas pu être là. Donc, j'ai dû avoir la dure tâche de la remplacer, mais avec l'accent. Donc, on va commencer par Isabelle. Dites-nous, Isabelle, qu'est-ce que c'est ou comment tu pourrais nous présenter cette association Cap Marseille?
Bonjour. Bonjour. Alors, donc Cap Marseille, c'est tout d'abord un chantier d'insertion permanent. Donc, en fait, ça a pas mal de facilité, d'intérêt, on va dire, dans le monde de l'économie sociale et solidaire, notamment.
Excusez-moi, avant de continuer, qu'est-ce que c'est un chantier d'insertion? Parce que
cette mot, oui,
on dit, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est.
C'est vrai qu'on a une image un petit peu, on va dire, archaïque des chantiers d'insertion, où on va se retrouver avec des anciens bagnards et des toxicomanes sortis d'on ne sait où. Et au final, on se rend compte que, avec la réalité du marché du travail actuel, on a dans les chantiers d'insertion des gens qui viennent un peu de tous les horizons, et notamment beaucoup maintenant des jeunes diplômés qui n'arrivent pas à rentrer une première fois dans le marché du travail. Donc on a ce type de profil-là, des gens qui se sont également écartés du monde du travail pendant des années.
Ou que le monde du travail l'a écarté, c'est possible.
Oui, ça c'est une autre version, effectivement, on peut le dire comme ça, tout à fait. Et c'est vrai que ça permet de réunir dans une même structure des gens qui viennent de différents horizons, et ça donne une grande richesse à une équipe. Et c'est vrai que donc, ce chantier d'insertion, ce principe, permet de donner une passerelle à des gens sur une thématique, sur un type d'emploi.
Donc, c'est ce que vous faites au Cap 21, au Cap
Marseille,
pardon, Cap Marseille.
C'est ça, exactement. On est une passerelle, en fait, sur des postes assez variés, et notamment dans le domaine de l'environnement.
Bon, maintenant, on va demander à Violaine Boré, qui est chargée de communication de l'association Acta Vista. Et voilà, qu'est-ce que vous faites pour avoir aussi de l'emploi dans ce domaine qui c'est un domaine, comme on avait dit, difficile?
Donc Acta Vista, comme Cap Marseille, est également un atelier chantier d'insertion. Nous, on est plus spécialisés en restauration du patrimoine. Donc ce sont des postes, en fait, ce sont des postes où les personnes sont salariées de la structure en contrat aidé. Et travaille donc dans le milieu du BTP, puisque c'est du patrimoine bâti, en fait. Donc on restaure des gros ensembles sur Marseille, monuments historiques, notamment le Fort d'Entrecasteaux et l'hôpital Caroline. Et donc les personnes qui sont présentes, en fait, c'est des personnes qui sont relativement éloignées de l'emploi. C'est essentiellement des chômeurs de longue durée, des personnes qui sont allocataires du RSA, et donc qui ont des difficultés à s'intégrer dans le monde du travail. Et donc nous, cette passerelle, c'est des CDD de 6 mois renouvelables une fois, donc jusqu'à un an, où ils ont également un accompagnement socio-professionnel, plus une formation dans le milieu du bâtiment. Et donc c'est vraiment leur permettre de retrouver derrière un emploi ou de se rediriger vers une formation qualifiante.
Ce que je trouve qui est assez génial quand même, bon, pour une fois, si vous voulez, au lieu d'avoir des chômeurs qui coûtent très très cher à la société, parce que c'est vrai, ça coûte très cher un chômeur, ça coûte plus cher qu'un smicard. Vous savez que ça ressemble un peu bizarre, mais c'est comme ça. Comment ça coûte cher? Vous faites un boulot qui est fantastique parce que vous êtes en train de faire la vraie insertion des gens pour qu'ils puissent avoir une passerelle vers un travail stable. Et en plus, tout ce que vous faites, ça sert à tout le monde. Ça veut dire que c'est presque, j'ai envie de dire, que c'est quelque chose qu'il faudra développer partout. Et ça m'étonne un petit peu aujourd'hui parce que je vous pose une question un peu difficile. Aujourd'hui, les emplois aidés, apparemment, on est en train de couper tous les emplois aidés. Et comment vous faites s'il n'y a plus d'emplois aidés? J'aimerais savoir comment vous ferez. Vous êtes d'ailleurs la question, combien d'employés vous avez et qu'est-ce qui se passe? Comme c'était le projet de M. Sarkozy d'éliminer les emplois aidés, mais je pense qu'il va les remplacer très vite parce que c'est une catastrophe si on fait ça. Donc j'aimerais savoir quelle serait la conséquence s'il y avait une telle mesure de couper tous les emplois aidés. Et Isabelle, s'il te plaît.
Oui.
C'est une question difficile.
C'est une question difficile.
Mais tu peux prendre ton joker, si tu veux.
Ça ira. Je vais essayer de faire ce que je peux, en tout cas, là-dessus. La problématique... Bon, disons que les chantiers d'insertion, jusqu'à présent, ont été prioritaires sur les contrats aidés, si je ne me trompe pas. À la fin début 2011, on a eu effectivement des circulaires qui limitaient les enveloppes sur les contrats aidés. Les chantiers d'insertion bénéficiaient en priorité de ces enveloppes pour pouvoir notamment renouveler leur poste. Voilà, fin des contrats aidés, qu'est-ce que ça va donner? Honnêtement, hormis une fermeture de la déstructure d'insertion, je ne vois pas trop ce que ça peut être d'autre.
Vous avez combien d'employés, vous l'avez
Nous
dit?
Avons en poste d'insertion 28 employés
28
en insertion.
28 employés, c'est quand même assez important.
Ouais,
d'accord. On parlera après qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Et vous, votre association, Violaine, qu'est-ce qui fait? Combien d'employés et qu'est-ce que vous ferez qu'est-ce qui peut passer dans une structure comme la vôtre si il y a une coupure d'emplois aidés?
Alors nous, en poste d'insertion, on est à peu près à 200 personnes.
Oula.
Oui, c'est assez important le nombre de postes d'insertion qui sont sur la structure. Après, au niveau des emplois aidés, c'est vrai que la fonction publique, en fait, utilise beaucoup ces emplois aidés, alors que normalement, ce sont censés être des emplois justement passerelles pour les gens et retrouver du travail. Donc, il y a eu des gros soucis fin 2010.
Ça veut dire que, si je comprends bien, aujourd'hui, on est en train de réduire les fonctionnaires. Et pour autre part, on multiplie les emplois.
Ça.
Ça veut dire qu'un fonctionnaire, ça peut avoir un équivalent de 4-5 emplois précaires.
Oui, c'est ça.
Donc, quelque part, c'est une façon de... Je ne sais pas comment on dit, déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est un peu bizarre, les trucs.
Et c'est vrai que ce qui s'est passé fin novembre-décembre 2010, où on nous a dit, au niveau de la région PACA, l'enveloppe des emplois aidés, on l'a largement dépassée, c'est fini, on ne peut plus recruter. Alors, le gouvernement a décidé de mettre la priorité pour les chantiers d'insertion, pour la police... Et le troisième, c'était pour l'éducation. C'est les trois secteurs où les emplois aidés ont été reconduits.
D'accord. Ça veut dire que les problèmes, que quand même, mais là, ils ont fait la massacre à la tronçonneuse à la culture.
C'est ça.
Et la culture, il fait vivre beaucoup, beaucoup de monde. Donc, Radio Grenouille, c'est la culture. Hein. C'est quoi qu'on pourrait se faire passer comme chantier d'insertion. Non, je rigole. Non, je dis par là que... Et toutes ces choses-là, je pense que les hommes politiques réfléchissent d'une façon très rapide. Pour faire de l'économie, on fait des gaspillages beaucoup plus importants à côté. Si on va faire des économies pour avoir plus de chômeurs, pour avoir plus de gens qu'on va payer, et personne qui travaille pour faire tous ces emplois publics que vous êtes en train de dire, d'une façon déguisée, c'est quand même assez important. Je voulais maintenant la question pour vous deux, on va commencer par toi Isabelle. Et vous avez un nombre d'emplois, comment se compose tout ça? Première chose, j'aimerais avoir quel est le profil type de quelqu'un qui vient dans votre structure. Je sais que dans votre structure, vous avez deux domaines différents, donc si tu peux nous expliquer. Et quel est le profil des postes? Comment vous faites pour trouver quelqu'un quand vous demandez un emploi?
Alors, au niveau de la technique de recrutement, on a affaire à des... comment dire, des prescripteurs type Pôle emploi, Cap emploi, avec lesquels on travaille régulièrement et qui nous font passer des candidatures, des fiches de liaison, on va dire, motivées par des accompagnateurs à l'emploi. Et les profils, de façon générale, donc effectivement des gens éloignés de l'emploi depuis un certain temps, souvent bénéficiaires des minima sociaux, type RSA, SS, travailleurs handicapés, des choses comme ça. Aussi une partie, donc, comme je disais, de jeunes diplômés qui pendant longtemps n'ont pas été pris en compte dans les chantiers d'insertion. Et c'est une lutte d'ailleurs avec les prescripteurs parce que c'est très difficile de leur faire reconnaître ce besoin pour les jeunes diplômés de passer par une passerelle telle que le chantier d'insertion. Ça, c'est une lutte quotidienne.
Et tu nous avais dit que dans ton association, il y avait deux secteurs. Un secteur qu'on peut appeler environnement.
Tout à fait.
Il y a un autre secteur qui était appelé un peu communication.
Promotion, communication. Ouais,
donc, quelles sont les activités de l'un et de l'autre?
Très bien. Alors, pour le pôle environnement, on va dire qu'il est le plus facilement identifiable. On a deux équipes d'intervention. Une qui est spécialisée dans la sensibilisation et l'éducation à l'environnement, notamment auprès des jeunes publics, centres sociaux, écoles, mais également grand public, lors de certaines manifestations que nous développons au cours de l'année. Donc ça, c'est la première équipe dont je suis responsable au sein de la structure. La deuxième équipe, quant à elle, recrute des agents de nettoyage du littoral qui travaillent tout au long de l'année sur des zones un petit peu difficiles, zones côtières, zones rocheuses et digues, sur Marseille, MPM.
C'est un petit peu un emploi qui devait avoir un MPM, vous les faites. Donc encore une fois, c'est de l'emploi aussi. J'essaie de comprendre, c'est
tout
l'emploi qui pourrait devenir un emploi, un CDI.
Ça,
donc on voit bien,
pourrait.
Si vous voulez, je vois un peu la structure, comment on est en train de se faire. Et c'est un peu
il y a
tout
des
ça,
besoins
ça.
Il y a des besoins, et en fait on est là où il y en a, et c'est vrai que bon, MPM travaille essentiellement dans les zones, on va dire, grand public, plages, etc. C'est eux qui gèrent ces espaces. Or, tout ce qui est espace de digue, enrochement, etc., sont moins gérés. Et en termes de macro-déchets, de retenue de déchets en côtier, c'est des endroits qui sont très pollués. Donc, personne ne va nettoyer ces endroits-là. Donc, nous, on a pris ce parti-là d'aller donner notre appui.
Déjà, c'est une bonne chose. Au moins, si on ne peut pas, pour les budgets actuels d'MPM, au moins, bon, les dire clairement, mais les faire un peu pérennes, parce que ça ne peut pas arriver. Moi, je pense qu'un gros problème qu'on a dans les associations, je le vois, nous, avec les associations qu'on travaille, les plus grands problèmes, même pour Radio Grenouille, le plus important, c'est la formation. Quelqu'un qui, par exemple, qui est à la régie de Radio Grenouille, on ne le forme pas dans deux jours. C'est une expérience, c'est un an, deux ans, voilà, c'est du temps. Et après, ces personnes, parce qu'il y a un contrat CDD, doit partir, c'est vraiment la catastrophe, parce qu'au fond, chaque fois, on doit reperdre des temps à former. Et dans les associations comme les vôtres, toi-même, tu as une place de tuteur, donc tu as la place de guider les autres. Si tu pars parce que ton CDD c'est fini, c'est quand même travailler vraiment d'une façon pas très très convenable, on va dire. Bon, Violaine, je voulais te poser la même question que je posais à Isabelle. Et voilà, un petit peu comment vous êtes structuré pour travailler, comment vous faites pour faire tout ça, surtout que vous êtes apparemment beaucoup, beaucoup de monde. Donc, les moindres choses, tu parlais de la région, ça peut faire un cataclysme chez vous, parce qu'il peut partir 150 personnes, peut partir très vite. Donc, ouais. Comment vous faites?
Je pense que de toute façon, sur les contrats aidés, les ateliers chantiers d'insertion, c'est des structures qui sont... Alors, c'est vrai que les thématiques, on va dire, sur lesquelles travaillent les ateliers chantiers d'insertion sont diverses, mais il y en a dans toute la France. C'est des associations, au niveau national, c'est des dispositifs qui existent depuis les années 90, en fait. Donc, c'est vrai que le gouvernement, même s'il retire, on va dire, la majorité des contrats aidés, je ne pense pas que pour les ateliers de chantier d'insertion, parce que sinon, ça c'est sûr, c'est la mort des ateliers de chantier d'insertion, ça c'est évident. Donc, nous, c'est vrai qu'on a sur Marseille quatre chantiers. Donc ils représentent 200 postes en insertion. Et au niveau des permanents, on est une trentaine. Voilà, encadrant permanent, donc avec le pôle administratif. On a des personnes qui sont spécifiques justement sur pour l'accompagnement de ces personnes en insertion, le recrutement. Donc ce que disait Isabelle, en effet, ce sont les prescripteurs type Pôle emploi, les plis, les missions locales pour les jeunes de moins
de
25 ans.
Les plis, c'est quoi les plis?
Les plis, c'est les...
Plan local d'insertion ou...
Je sais plus.
Très bonne question.
Pôle local d'insertion, je sais pas.
Ouais, je sais plus. C'est, bon,
c'est à l'emploi, ouais.
Bon,
oui.
C'est les pli pli pour les gens.
Pli PL.
Pôle local d'insertion à l'emploi, ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, qui nous envoie en fait une personne qui voudrait aller sur un atelier chantier d'insertion ne peut pas nous envoyer le CV en direct, on le recrute pas en direct. D'accord. C'est les accompagnateurs
donc,
à l'emploi.
Les gens qui nous écoutent, qui veulent travailler, ils peuvent pas vous envoyer en direct,
Non, il faut qu'ils passent par leur accompagnateur à l'emploi, des plis, des pôles.
Allez voir votre accompagnateur à l'emploi et vous lui dites que vous voulez aller sur un chantier.
Et c'est eux qui sont en lien avec nous, qui nous envoient en effet les candidatures et nous on les recrute. Essentiellement sur la motivation.
Vous êtes quand même, c'est vous qui vous choisissez. C'est
ah
pas
oui, oui, oui.
D'accord.
Non.
Une question qui me vient, j'aimerais que chacun de vous m'expliquiez un exemple d'un chantier insertion pour comprendre bien. Un exemple de chantier insertion, je ne sais pas si toi tu veux commencer, mais pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est dans ton cas de patrimoine et dans ton cas un chantier insertion. Qui va se lancer?
Moi, je vais bien commencer.
Vas-y.
Je t'en prie. Donc nous, dans le cas du patrimoine, par exemple, sur le fort d'Entrecasteaux, donc le fort Saint-Nicolas, à l'entrée du port de Marseille, donc on va faire le parcours d'une personne en insertion. Donc cette personne en insertion va, donc là, le prescripteur, voilà, par exemple l'accompagnateur Pôle emploi, va nous envoyer une fiche de liaison en disant, voilà, cette personne est intéressée pour intégrer le chantier. Donc c'est un chantier BTP, hein,
bâtiment, travaux
publics. Bâtiment, même si c'est du monument historique, c'est du bâtiment, donc c'est... Après, il y a des spécificités
c'est des
qui sont particulières.
Des plombiers, ces maçons.
Non,
des...
c'est plutôt du second œuvre, voilà, plutôt du maçon, donc maçon du patrimoine. Où là, on travaille. Nous, on a en interne, on a une forte thématique environnement et développement durable. Donc, on travaille avec des matériaux naturels. On travaille
ça,
à l'ancienne. On fait du travail traditionnel. Les encadrants techniques, parce qu'on a des encadrants techniques sur le chantier, sont des compagnons tailleurs de pierre. Donc voilà, c'est tout des métiers et des apprentissages.
Et ça vous coûte quand même un peu plus cher, parce que si vous mettez à quelqu'un qui va encadrer toute une équipe qui a une expérience, vous ne pouvez pas l'embaucher comme ça.
Après, c'est le choix. C'est, le choix
c'est compliqué, c'est compliqué oui. Parce que si vous avez si vous avez 50 personnes qui vont faire la même tâche, si vous avez un bon éducateur, un bon formateur, c'est pas pareil qui vous mettez celui qui coupe les pierres comme moi.
C'est l'essentiel parce que en fait, donc au niveau du parcours d'insertion, donc une fois que la personne va passer l'entretien, on va le recruter. Nous, c'est essentiellement sur la motivation de retrouver un emploi, de se rediriger vers le monde du travail. Donc il va arriver sur le chantier. Sur le chantier, donc c'est des contrats de 26 heures. Donc il va faire une semaine sur le chantier. À 35 heures. La semaine complète, c'est à 35 heures. Donc
il est guidé par quelqu'un.
Là, ils sont encadrés par des chefs de chantier qui sont donc des professionnels aguerris et de haut niveau, justement. D'accord. Parce que nous, en plus, en termes de monuments historiques, on est contrôlé par tout ce qui est DRAC, la direction des affaires culturelles, tout ce qui est ABF, architecte des bâtiments de France. Donc on a des cadres techniques qui sont aussi très, très élevés. Donc voilà, on a des encadrants techniques sur les chantiers qui sont des encadrants formateurs. Parce que donc on forme ces personnes arrivent, n'ont pas forcément d'expérience dans le bâtiment. Ils sont totalement novices, donc il y a toute une période d'apprentissage sur le chantier.
Donc une semaine dans les chantiers, après une semaine.
Et après une semaine où ils sont, eux, en formation. Alors soit formation théorique par rapport au chantier, puisque là, depuis l'année dernière, on les emmène, on leur fait passer un titre qualifiant. Un titre de la formation professionnelle qui est délivré par l'AFPA.
C'est quoi
l'AFPA.
Non, parce qu'il quand même donne des sigles.
Formation,
j'aime bien. Ouais, c'est pas grave. Vous dites à peu près qu'est-ce que c'est, mais c'est important.
Et en fait, l'AFPA est habilité à délivrer des titres professionnels par le ministère du Travail.
C'est que je trouve qui est très beau et que j'apprends avec vous, que c'est un donnant-donnant. Ça veut dire qu'on ne va pas exploiter un individu on va donner une semaine, on va le faire travailler. Et une semaine, il va apprendre. Ça veut dire que c'est un peu comme les gens qui viennent dans les associations bénévoles, on les demande de faire des choses, mais en échange, toujours il y a une espèce d'échange naturel qui s'est fait. Et j'aime bien ce concept de respect.
Mais quand ils sont sur le chantier, ils apprennent aussi, parce que comme ce ne sont pas des professionnels du bâtiment, ils apprennent le métier, ils vont apprendre à monter un mur en pierre sèche, ils vont apprendre à tailler la pierre, ils vont apprendre à faire de la maçonnerie. Et donc comme nous, depuis l'association existe depuis 2002, comme cette formation était déjà réalisée, on va dire, sur le chantier en direct, on a décidé de la formaliser justement et de leur faire passer ces titres professionnels.
Vous savez que vous avez beaucoup, beaucoup de travail à Marseille ? Je viens d'avoir, pour vous donner l'exemple, les gens du Parc National des Calanques, qui j'espère qu'ils vont venir, il faudra restaurer plein de bastides qui sont à l'intérieur, qui sont des ouvrages historiques pour nous. Et je sais qu'il y a un grand besoin, il n'y a pas les sous qu'il faut derrière, donc je pense qu'on va passer par des chantiers d'insertion pour restaurer pas mal d'industries, de vieilles industries, de fourrachots. Il y a pas mal de choses que je pense qu'il y a tout intérêt à restaurer pour garder cet patrimoine historique. Et là, je pense que vous avez un travail énorme avec le nouveau parc national qui arrive. J'espère bien que ça continuera à marcher.
Alors c'est vrai que le travail, c'est pas ce qui manque. La difficulté, le financement.
On va commencer. Après, on va aller à les choses qui font mal tout à l'heure. Premièrement, on va demander à Isabelle qui nous explique un chantier d'insertion dans votre association Cap Marseille. Et un exemple concret.
Oui, un exemple concret. Pourquoi pas le programme de la semaine prochaine, tout simplement. Les équipes d'animateurs à l'environnement la semaine prochaine ont, on va dire, deux sessions d'animation de prévues, une avec un centre social qui leur demande d'organiser une éco-balade à la campagne Pastrée, qui va leur permettre de mettre en avant leur connaissance du territoire et des spécificités du territoire marseillais, notamment en termes de richesse, biodiversité, connaissance naturaliste, des choses comme ça. Donc, ils vont guider les enfants dans un parcours avec une reconnaissance des plantes, des espèces, et puis apprendre à regarder tout simplement autour d'eux. Donc ça va être, ça c'est un projet qu'on a déjà mené avec d'autres équipes. Donc là,
surtout que la présidente de votre association, c'est quelqu'un qui vient de l'enseignement, donc qui a fait beaucoup, a travaillé beaucoup avec l'Office central de la coopération à l'école, donc il a une expérience éducative assez importante. C'est important de le dire parce que beaucoup de gens se lancent dans l'éducation sans base. Je ne dis pas que c'est une critique, mais le problème est que quand on n'a pas une base, une expérience de l'éducation, on ne va jamais faire comme celui qui a ce parcours. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et alors, la semaine va passer.
Donc jeudi, vendredi, ils ont des animations avec une école avec qui on travaille aussi depuis un certain temps. Et on monte des animations en partenariat avec notre deuxième chantier, notre deuxième pôle, qui comprend un bateau, donc une tartane méditerranéenne, un voilier qui fait 18 mètres à peu près.
Oh là là, c'est la classe. Donc vous êtes
carrément
en vacances.
On peut voir ça comme
quand
ça.
Quand on fait un petit tour, c'est... Ah, il faut on que nous, vous ça. Nous invitez quand même.
Ah bah écoutez, pourquoi pas. Donc le bateau, lui, est à la base nautique du Roucas Blanc, ce qui nous permet de faire des départs à partir de la base et aller visiter, on va dire, la rade, faire connaître la rade aux jeunes Marseillais, parce qu'au final, beaucoup d'enfants tournent le dos à la mer et n'ont pas forcément de rapport avec cet élément-là. Donc, on essaye de faire profiter aussi, on va dire, avec les subventions, à des tarifs un petit peu, on va dire, abordables pour les structures sociales. On a ce projet-là la semaine prochaine, où on va faire moitié voile et moitié éducation à l'environnement, avec des ateliers pédagogiques sur les thématiques locales du territoire, et puis des grandes thématiques comme le cycle de l'eau notamment, pour voir un petit peu où ils en sont, tester un petit peu leurs connaissances, et puis une phase aussi l'après-midi d'éco-ambassadeurs, on va dire, sur les problématiques de tri, de gestion des déchets avec les baigneurs sur les plages, puisqu'on sera à côté de la base nautique, donc près des plages du Prado.
Oui, c'est
donc expliqué. On va aller à la rencontre des baigneurs, tout simplement, pour discuter avec eux, comme on fait d'ailleurs avec l'Office de la mer cet été, puisqu'on a la campagne « Ma plage, moi je la respecte ». Et où on verra des animateurs un petit peu tout l'été sur les plages venir à la rencontre des baigneurs pour les sensibiliser.
Oui, d'ailleurs, une des animatrices de Coforum et de la Maison de l'écologie participe aussi à la plage. Moi, je la respecte.
Effectivement.
C'est une bonne initiative. Encore une association que je crois qu'il y a quelques problèmes d'argent. Donc ça, c'est pour ça qu'à cause de ce choix qu'ils ont fait, je pense qu'il va y avoir beaucoup de dégâts. Et l'homme politique, aussi, l'homme politique au niveau national, je pense qu'il n'a pas vu les conséquences de ces restrictions, parce que c'est quand même assez grave.
La logique à court
terme. Moi, ce que je vous propose, là, une petite pause musicale, et on va continuer cette émission avec vous deux tout de suite après cette pause musicale.
Très
je
ne
sais pas quel morceau qu'on a mis. Et c'est un peu compliqué, je n'ose même
c'est
pas
Moschuté, le dire. Moschuté, les Joviennes, Mademoiselle de Marseille.
Ah oui, parce que sinon, je massacre ce nom. Bon, on va écouter ça.
Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle, enfin, mais je ne sais pas où. La chercher, la chercher, il me faut la chercher, oh ouais. La trouver, la trouver, je dois la retrouver, oh papali. Je vais voir à Saint-Jean et au quartier du Panier. J'interroge les gens pour savoir où elle est. On me dit qu'on l'a vue vendre des limaçons. J'ai beaucoup ri les rues, j'entends pas sa chanson. Enfin, mise et marcilla, montez ses escondida. Enfin, mise et marcilla, Bessaitis est perdida. Remonte en canebière, j'ai le cœur qui s'emballe. On l'aurait vu hier, eh ouais, au palais de cristal. Mauvaise limonade, y'a plus que des musées, que des belles façades, mais rien pour s'amuser. Il faut chercher partout, des collines à la mer, ça fait sacré beau. Des calanques à la nette, c'est une histoire de fou. Ça fait des kilomètres, je suis sur les genoux. Enfin, mise et marcilla, monte siège escondida. Enfin, mise et marcilla, Bessaitis est perdida.
Mademoiselle Marseille, moi je sais où elle est. Dans la cour de l'école, moi je l'ai embrassée.
Ah, c'est génial, là. Je la connaissais pas, mais il y a un nom difficile, mais elle est très belle.
Magnifique.
très belle. Bon, ça tombe juste pour rapport à ce qu'on fait. Hein. Apparemment, c'est ça l'art d'un régisseur de top niveau. Vous voyez, il a trouvé la musique qu'il fallait au moment qu'il fallait avec les gens qu'il faut. Bon, aujourd'hui, on est avec Isabelle Pozzo de Cap Marseille et Violaine Boré de l'association Actavista. Deux associations qui embauchent des gens par l'insertion, pour plein de possibilités. Pour une part, il y a une qui embauche 200 personnes, donc il travaille avec 200 personnes. Et l'autre, tu m'as dit à peu près 28, voilà. Bon. Donc, la question qui est la plus dure de tous, vous avez du monde, vous avez comment vous faites, comment ça marche, qui vous finance pour que tout ça, ça marche. 28 emplois dans le cas de Cap Marseille. Comment on fait? Parce que je sais qu'un emploi, c'est une galère. 28 emplois, ça va être la galère multipliée par je ne sais pas combien. Donc, dites-nous comment ça marche. Je sais qu'il y a beaucoup de ténacité, la présidente, mais comment il fait pour arriver à trouver tout ça?
Disons que, donc comme on le disait tout à l'heure, tous les emplois en insertion sont des contrats aidés, des contrats uniques d'insertion. Qui sont entièrement financés par l'État, tout simplement. Donc, ce sont
l'État,
des subventions.
L'État, il prend une partie.
Il parle la totalité.
Ah, la totalité.
Voilà.
Ah, il est gentil, l'État.
Il est gentil, l'État. Bon. Donc, en soi, les salaires des salariés en insertion sont pas véritablement le centre du problème.
Il y a quand même une part qui est à la charge de l'employeur, enfin de la structure, puisque toutes les charges sociales et patronales sont quand même payées par la structure et pas par l'État. Donc,
d'accord. Bon, on continue, Isabelle. Mais c'est bien que tu as fait cette remarque.
C'est vrai, c'est une précision à faire.
Il y a juste une
parce
petite
part. Isabelle Pozzo, ce n'est pas la présidente, elle est tuteur. Donc, on lui pose une question un peu compliquée. Mais bon, si tu dis des bêtises,
Violaine
va nous aider à corriger.
Non, mais
bien sûr, donc, c'est pas une bêtise.
Donc, l'État donne les 100%, une partie aussi l'association,
oui.
Après. Pourquoi vous demandez des sous alors à la région, au conseil général, à tout le monde? Dites-nous.
Parce que les payer seulement, c'est pas suffisant, puisqu'il faut leur donner les moyens d'agir, leur donner des supports d'activité.
Ah, là, on parle que du salaire, d'accord? Donc l'État, il donne que les sous pour les salaires.
Admettons, c'est une façon de schématiser. Donc ce qu'il faut après, c'est à investir dans tout ce qui est activité, véritablement. Donc le fond du chantier, parce qu'on ne fait pas venir des gens juste pour qui s'asseye au bureau et
déjà il faudra une chaise
plus. Voilà, déjà il faut une chaise effectivement, mais bon, ça c'est pas le plus grave, mais donc l'intérêt c'est de leur donner matière et de les former sur le terrain finalement, selon leurs activités, puisqu'on a pas mal de différents
donc
postes.
Si vous avez un montant total de mettons X, et il vous faut quand même 20% de plus, 30, 40, je ne sais pas combien de pourcentage de plus, pour pouvoir faire vivre toutes ces structures.
Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Donc vous demandez de l'argent à la région.
Voilà,
qui,
la région.
Qui est votre, après l'État, qui c'est qui vous donne le plus de sous?
Conseil régional, conseil général.
Oui.
Le conseil général aide en fait à la stabilisation des postes de tuteurs.
D'accord.
Donc ça c'est le deuxième point majeur, effectivement.
C'est tout qui est important.
Ça c'est le point majeur, parce que c'est vrai que sans cette aide financière pour payer les salariés permanents, tout simplement le chantier se délite assez rapidement, puisqu'on n'a plus de formateurs, de personnes qui est là pour encadrer, et puis de mémoire de l'association aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui reste suffisamment longtemps pour transmettre quelque chose, le fond en fait de la structure.
D'accord, donc vous, vos activités ne sont pas payantes?
Ça c'est le deuxième point.
Parce que j'essaie de voir comment on peut trouver de l'argent pour
c'est
aussi...
C'est ça, c'est-à-dire que les collectivités locales nous encouragent de plus en plus à préparer une proportion d'autofinancement, ou plutôt de part privée de subventions. Donc de voir avec les entreprises, des structures, et de vendre des prestations. C'est-à-dire que...
Mais moi, je comprends bien ça, mais je suis un peu l'avocat du diable.
Bien sûr.
Si vous avez de l'argent... pour servir aux pauvres, on va exagérer les choses, personne va s'intéresser aux pauvres. Donc, donc cette association qui travaillerait qui avec des gens pauvres, au fond, elle aurait besoin de 100% des subventions des États, des collectivités. Si l'association se transforme en privé, il peut se transformer plutôt en société. Donc, ce n'est plus une association, c'est autre. À mon sens, une association qui va trop vers, je ne dis pas un autofinancement, je dis on peut aller vers un autofinancement, mais quelque part, pour avoir un autofinancement, on néglige les gens pourquoi on a commencé. Donc, c'est une question que je te pose.
Oui, le public cible, en fait. C'est-à-dire que la CAP Marseille, au départ, dans tout ce qui était sensibilisation, donc son objectif, c'était de faire travailler des gens en insertion, donc des gens en difficulté, et de le public cible de ces prestations de sensibilisation, c'était des gens en difficulté également, donc des enfants issus de centres sociaux et qui n'avaient pas forcément un accès facilité à ce type de service. Donc c'est vrai qu'avec la réduction des subventions qui est inévitable de toute évidence, on nous encourage fortement à changer finalement de public cible,
ou à virer,
tout simplement.
Ou à virer des mondes.
Ou à virer du monde, oui, ouais. Effectivement. Donc on est obligé de diversifier, de se tourner vers d'autres publics et notamment vers tout ce qui est entreprise. Donc comme nous sommes liés grâce à notre bateau, en fait, on a quand même une approche intéressante du patrimoine maritime. Donc on peut se permettre de proposer des sorties en mer, des comités d'entreprise, des choses comme ça. Donc ça permet de diversifier.
Ne vous inquiétez pas, on entend un petit bruit d'une pluie, mais ça, il ne pleut pas.
Non, il ne pleut pas. Non,
soit on va exploser dans quelques minutes.
Ah si, il pleut dehors.
Oui, il pleut dehors. Il pleut dehors. Très fort dehors. Donc il y a un problème de micro. Mais ce n'est pas... Vas-y, continuez.
Oui.
Voilà. Donc, oui, il pleut.
Il pleut
à Marseille.
Il pleut à l'intérieur.
Il pleut à l'intérieur de l'estudio. Oui.
C'est ça le bruit.
Oui. Bon, on va continuer notre.
Donc,
vous voyez que les associations comme Grenouille aussi, ils ont besoin de réparer les toits.
Elles prennent l'eau.
Et là, on va leur donner tout de suite un travail. À qui? Un chantier d'insertion qui va venir réparer le toit de justement de ce chantier d'insertion. Bon, juste quelques mots pour conclure la partie financière de votre association, pour passer la parole à Violaine.
Ouais,
si vous entendez la pluie,
dire,
c'est normal.
Pour conclure, donc on est dans cette logique en fait de limite de pourcentage. On demande presque du 20% de prestations avec le privé pour, on va dire, équilibrer la diminution des fonds publics attribués à la structure en termes de chantier, d'activité. Voilà.
Voilà, on demande à tous les gens qui ont un seau d'amener un seau, parce qu'il est en train de tomber la pluie partout. Mais ce n'est pas grave, tant qu'il ne soit pas électrocuté avec un tonnerre qui va arriver, va nous transformer en chauve-souris tout de suite, bon, tout va bien.
C'est les aléas du direct.
Violaine, on est en direct, hein, c'est pour ça qu'il faut s'éclater un peu. Bon, Violaine Boré qui va nous parler de comment trouve les sous, comment trouve l'argent, l'association Activista, qui sont quand même 200 personnes, c'est immense. Donc, comment vous faites pour trouver cet argent et avoir un suivi quand même?
Alors,
est-ce que vous avez viré du monde?
En effet, on a des aides, on a des aides publiques. Après, moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport également aux entreprises privées. Mais les entreprises privées, il y en a beaucoup qui ont aussi des soutiens publics. Et ce qu'on ne voit pas, enfin, nous, la manière aussi dont on voit ces soutiens publics, enfin, c'est associé à des subventions. Mais quelque part, on a aussi on signe, par exemple, avec l'État tous les ans. On a des contrats d'objectifs pour les sorties des personnes qui sont sur les chantiers. Donc, on signe des contrats d'objectifs en disant, eh ben, cette année, voilà, sur tant de postes conventionnés, il va falloir que vous rameniez à l'emploi en sortie dynamique ou en sortie positive, c'est-à-dire en CDI, en CDD de plus de 6 mois ou en formation qualifiante, vous avez un pourcentage et vous devez les tenir. Et même avec le Conseil général qui subventionne également cette part au niveau des allocataires du RSA, eux, c'est pareil, ils nous subventionnent par rapport au taux de remplissage des chantiers. Donc le nom
ça
de personne...
Il y a quand même un contrôle.
Oui, bien sûr,
ça
on a un contrôle.
On ne vous donne pas les sous. Non, ça, c'est ça qui est intéressant.
Non, ils ne nous les donnent pas comme ça. Donc ça, on doit faire des bilans, de dire, voilà, sur le chantier, sur l'année, on a eu tant de personnes qui ont été présentes par rapport au nombre de postes conventionnés. Donc c'est le taux de présence et le taux de sortie positive et de sortie dynamique aussi des chantiers. Donc
quand
on a des
taux de sortie positive, ça veut dire que c'est des gens qui ont trouvé un emploi ailleurs.
C'est ça, c'est des CDI, c'est des personnes qui partent en CDI, les personnes qui partent en CDD de plus de 6 mois. Et les sorties dynamiques, c'est les CDD de plus de 3 mois, les contrats d'intérim également. Donc on a des objectifs assez élevés quand même. Enfin, c'est pas, faut pas croire qu'en fait on est des subventions publiques comme ça parce que on est une association et que on est quelque part, on signe un contrat avec l'État,
moi,
on va signer un contrat avec
très...
le Conseil général. Et,
Moi je pense que c'est très bien vis-à-vis du public qui nous attend, nous écoute, et que les collectivités locales ne voient pas l'argent comme ça. C'est qui est intéressant, si vous voulez, qu'un suivi, qu'on voit que ça sert à quelque chose. On voit très bien vos deux associations, on a un rôle utile, on voit très bien que ça sert, ça marche, ça sert à faire... Donc quand une association, on sent que ça marche, et on voit que ça marche, soit pour les différents indicateurs, ou soit simplement pour voir que la présence de ces associations sont en train de compléter un vide que l'État ne peut pas embaucher à la place 4 personnes, ça va les coûter trop cher. Mm. Bon, quelque part, on joue un peu avec tout ça. Moi, c'est vrai que c'est un peu angoissant tout ça, c'est bien, mais en même temps, si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une société que maintenant, on va travailler plein de fois, en plein d'endroits. Pour une part, ce n'est pas aussi mauvais, mais c'est un peu angoissant. Moi, depuis que j'arrive en France, j'ai changé de bureau tous les 300, 4 ans à peu près. Et, sauf maintenant, mais j'ai changé tout le temps de bureau. J'ai eu la chance de changer parce que je voulais changer, moi. Mais ce qui est embêtant, c'est quand on change, parce qu'on nous vire, parce qu'on n'a pas de sous, c'est pas la même chose.
Donc, c'est-à-dire que oui, tout le monde n'est pas en capacité. Il y a des personnes qu'on reçoit sur les chantiers qui ont des énormes problèmes de logement, qui ont des problèmes de santé.
Comment vous faites, par exemple, quand vous recevez quelqu'un en insertion qui a des gros, gros problèmes de ce type, par exemple, il ne sait pas où vivre. Comment vous faites toi, Isabelle, comment vous faites
C'est vrai que l'accompagnement à l'emploi est lié aussi à la mobilisation de capacités psychosociales. Donc, on s'intéresse beaucoup au profil. Et parfois, ça passe beaucoup par un accompagnement... on va dire sociale et une véritable surveillance entre guillemets de la situation des salariés dans le sens où on ne peut pas fatalement demander la même chose à une personne qui est en situation de rupture familiale, à la rue.
Avec tout le monde.
Aussi, on peut avoir des gens qui ont de très forts caractères. Il y a vraiment de tout en termes
comme
de...
Comme nous trois ici.
Par exemple. Donc, c'est vrai que c'est aussi gérer des humains. Enfin, voilà, on est tous des personnes. Et il y a un côté très, très humain dans ce genre de structure.
Un tuteur comme toi, jusqu'à combien de personnes tu vas encadrer? Parce que je pense qu'il y a un maximum quand même.
Oui, moi j'ai peu de personnes dans l'encadrement. Je dois avoir 5.
Oui, c'est le chiffre à peu près.
Tout à fait gérable à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est une petite équipe, donc il y a un côté très, je dirais pas familial, mais quand même quelque chose d'assez proche qui permet... véritablement un soutien. Donc l'association en elle-même est un lieu où ils se sentent bien et où ils peuvent demander de l'aide. Et c'est vrai que l'idée aussi, c'est de mettre en place, pour moi, chez nous, c'est vraiment ça qui compte, c'est l'idée de réseau. Donc pour nous, c'est un des points fondamentaux d'intervention, c'est-à-dire de connecter les gens aux bons endroits avec les bonnes personnes. Et notre but, finalement, c'est ça. C'est que ce soit en termes d'emploi ou en termes de problématiques sociales, L'idée, c'est de les orienter convenablement vers les bons interlocuteurs.
Et toi, Violaine, les cas difficiles, par exemple, parce que j'ai pensé aussi des gens qui arrivent, qui sont tellement habitués à rien faire, on s'habitue finalement, quand on est longtemps, on reçoit les sous de l'État, tout à coup, on va recevoir les mêmes sous de l'État, mais un petit peu plus, des fois,
oui.
20 euros de plus, 30 euros de plus en travaillant. Donc, je ne sais pas comment ça marche,
oui,
mais
non,
je voulais
non. juste... On a des personnes qui arrivent sur les chantiers qui n'ont jamais travaillé. Donc, on leur apprend à travailler, on leur apprend les règles de savoir être en entreprise. Et pour ceux qui ont des problématiques, on va dire, de logement ou de santé, on appelle ça des freins à l'emploi. Donc, en fait, on a des chefs de projet, donc c'est un peu comme les tuteurs chez Cap Marseille, qui les aident au niveau de leurs problématiques sociales et qui vont créer justement, qui vont les appuyer avec leur accompagnateur à l'emploi. Donc ça, c'est aussi au niveau du réseau, c'est ce qu'on disait, les prescripteurs tout à l'heure, et qui vont aider à résoudre ces problèmes et ces freins à l'emploi. Donc pour nous, une sortie, en fait, donc ce que je disais tout à l'heure, on a des contrats d'objectifs par rapport aux sorties positives ou aux sorties dynamiques. Mais nous, on prend également... Une personne qui va arriver sur le chantier et qui a d'énormes freins à l'emploi, au bout d'un an, n'aura pas forcément résolu tous ses freins, mais aura déjà, ne sera pas en capacité d'aller trouver directement un CDI, mais aura résolu une partie de ses freins à l'emploi. Sur cette année, comme il a un contrat de travail, il a un salaire, il aura pu trouver un logement, il aura pu résoudre des problèmes de santé ou autres. Et déjà, pour nous, ça, c'est déjà un grand pas.
Et j'aimerais savoir maintenant votre poste, parce que chacun, tant Isabelle comme Violaine, que vous êtes représentante de ces associations, j'aimerais que tu nous parles d'une minute un peu. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton poste? Comment tu es arrivé là? Quel moustique t'as piqué? Non. Comment tu as fait pour arriver dans ton poste? Quel est un peu ton parcours? Raconte-moi.
Alors, je vais commencer pour le poste déjà, pour bien fixer les choses. Donc, c'est un poste de coordinateur d'activité et de tuteur pour le pôle environnement de l'association uniquement, puisqu'il y a un deuxième pôle qui est plus basé communication, infographie, culture. Donc, mes responsabilités sont en termes d'encadrement des salariés, c'est-à-dire...
Quel est ton diplôme, par exemple?
Oh,
qu'est-ce qui t'a fait?
C'est important. Alors voilà, ok, d'accord.
C'est
en termes de parcours, j'ai fait pas mal d'années de fac en sciences humaines. Donc j'ai fait pas mal de trucs, genre de l'histoire de l'art, anthropologie. Et j'ai un diplôme en fait d'aménagement du territoire. Et
d'accord.
Paysage.
Un master.
Voilà, un master de, ouais, d'accord. Exact. Donc c'était un master de pro qui était, on va dire, censé ouvrir des portes et qui au final n'a pas abouti à grand chose comme
beaucoup
de masters.
Peut-être que tu n'avais pas la bonne clé.
Peut-être que je n'avais pas la bonne clé, effectivement.
Ouais. Donc tu es devenu à la fin tuteur de cette association.
Ouais.
Donc tu as quand même des bagages qui te permettent d'être tuteur, c'est
oui.
ça que
oui, je voulais oui, dire. Oui, bien sûr. Oui, j'ai quand même, on va dire,
Un cursus
qui me permet de voilà qui me donne les clés justement qui me donne des atouts pour mobiliser ces salariés sur des thématiques et les encadrer on va dire comme il faut et c'est vrai que moi la façon dont j'ai abouti à cette association c'est par un parcours d'insertion. Donc, moi-même,
après... Vous savez qu'il n'arrivait pas à trouver,
voilà.
Et finalement, ça t'a donné une première pas vers
tout
quelque chose de nouveau.
Tout à fait. Moi, je cherchais justement à, on va dire, m'insinuer, parce que c'est limite ça, dans le milieu associatif de l'environnement, qui au final n'est pas si ouvert que ça, et qui est très, très difficile à déterrer.
Très difficile. Très.
Donc, ça a été très dur pour ça, même en termes de bénévolat. Donc, il n'y a pas assez d'encadrants pour les bénévoles. Les gens, vont pas forcément vous recevoir aussi facilement. Et donc, j'ai eu une première expérience.
Non, parce que des fois, on perd beaucoup de temps avec des
oui.
bénévoles dans des associations.
Tout à fait.
Bénévoles comme la mienne, par exemple. On va perdre beaucoup de temps à former quelqu'un qui
oui.
va partir tout de suite parce qu'il va voir ailleurs.
Tout à fait.
Donc, quand on forme quelqu'un, on est sûr qu'il va au moins nous donner un petit peu de retour. Surtout
c'est
quand
vrai.
C'est bénévolat.
C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est compliqué, du coup, de se faire une place dans ce domaine-là. Et du coup, Cap Marseille m'a permis de le faire, puisque je suis rentrée en tant qu'animatrice à l'environnement l'année dernière. Et du coup, j'ai passé... j'avais déjà une première expérience d'animateur, j'ai un BAFA, voilà. Donc, c'était un bon moyen pour conforter mes acquis. Et en fait, je me suis prise d'affection pour cette structure, quoi. Et je me suis dit, avec toutes les aides que j'ai reçues jusqu'à présent, j'avais envie de faire quelque chose à mon tour et d'aider les autres. Donc
on peut dire que tu es heureuse dans cet moment que tu passes en
Oui.
Mais c'est très bien. Bon, Violaine, si tu peux nous expliquer un peu ton parcours, et ton diplôme, comment tu es arrivée là.
Alors déjà, je vais commencer par...
Et d'où tu viens. Toi, tu es marseillaise?
Tout à fait.
Marseillaise.
Ça fait 9 ans que je suis à Marseille, mais je ne suis pas marseillaise.
Pas marseillaise.
Non, je ne suis pas marseillaise.
On t'aime quand même.
Bon, au bout de 9 ans quand même, un petit peu. Mais moi, je vais commencer par mon poste pour vous expliquer un petit peu. Donc, au sein d'Actavista, je m'occupe donc, de toute la partie communication, de la partie environnement et développement durable et de la partie recherche de fonds mécénat également.
Oula, bah, t'es la plus difficile.
Comme Cap Marseille, avec la baisse des subventions publiques, on se retourne vers les fondations et les partenaires privés. Et mon parcours, donc moi j'ai une double formation en sciences et en environnement et en communication. Après, avant de rentrer...
Master 2, pareil, c'est...
Oui, un DES, enfin, à l'époque c'était DESS, donc Master 2 en communication. Oui. Qui à l'époque était, enfin est toujours d'ailleurs, existe toujours, c'est un diplôme spécifique qui s'appelle Relations publiques de l'environnement.
Ouh là là.
Voilà, communication
donc,
spécifique.
Donc tu pouvais pas tomber mieux.
Voilà. Et moi, après, par contre, j'ai travaillé dans différentes structures, notamment en tant que journaliste et auprès de structures de sociétés de production audiovisuelle, avant de rentrer et de travailler au sein d'Actavista.
Il nous reste 7 minutes. J'aimerais quand même vous poser une question un peu philosophique. Mais pour tous ces jeunes qui nous écoutent, ou tous les gens qui sont moins jeunes, qui nous écoutent et qui sont dans la galère en ce moment, qui ne trouvent pas d'emploi. Et vraiment, aujourd'hui, surtout à Marseille, qui a beaucoup, beaucoup de gens qui n'arrivent pas. Il y a des quartiers qui ont 40% de chômage. J'aimerais avoir de votre part un conseil. Si ces gens-là qui nous écoutent... qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, dans les domaines que vous êtes, pour arriver ? Toi, tu es passé, Isabelle, par des moments, on va dire, un peu noirs, dans un tunnel, qui ne t'arrive pas à trouver, et tout à coup, il y a une lumière. Quel conseil on pourrait donner à tous ces gens-là qui, aujourd'hui, galèrent, et qui, peut-être, ils ne cherchent plus, parce que beaucoup de fois, le chômage est faux, parce que les gens qui ne s'inscrivent pas au chômage, ils sont quand même sans emploi, et ils ne sont pas considérés dans les statistiques de chômage. Il ne faut pas oublier ça. Donc, quel conseil tu pourrais lui donner pour essayer d'arriver à trouver ?
Je pense que le problème principal, c'est le fait d'être déconnecté totalement du monde réel, entre guillemets, et du monde du travail. Je rappuie sur la notion de réseau, tout simplement. Donc, d'essayer un maximum de multiplier ses contacts et
Comment tu as trouvé, toi, Cap Marseille ? Comment tu as trouvé ?
Par le réseau, en fouillant bien et grâce aussi à mon accompagnatrice à l'emploi.
Donc, il joue un rôle quand même important.
Qui a joué un rôle important, oui, tout à fait.
C'était Pôle emploi ?
Oui, c'est le CDIFF, donc c'est un prestataire lié au Pôle emploi, tout à fait.
Donc on voit quand même que le travail, il sert quand même.
Il y a quand même ça. Après, il faut cibler un secteur et pas hésiter à aller sur les réunions, vraiment assister.
Ça t'a pris combien de temps pour trouver ?
2 ans.
Des galères ?
2 ans, voilà. Énorme, voilà.
C'était 2 ans, mais très long.
Oui.
Voilà. Bon, Violaine.
Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle. Le réseau est très, très important dans la recherche d'emploi. Hein. Moi, sur ce poste Actavista, c'est par réseau. Mes précédents postes, c'était par réseau. Ce que je disais, moi aussi, quand je suis arrivée à Marseille, j'ai mis 1 an avant de commencer à vraiment animer mon réseau et à trouver un poste. J'ai 1 an en sortant des études où c'est vrai qu'en tant que jeune diplômée, c'est assez compliqué parce qu'on nous dit « Ah bah non, vous avez passé d'expérience » ou « Ah bah non, vous êtes surqualifiée, vous allez vous ennuyer
». C'est ça.
Ah oui, non, mais enfin, moi je vais travailler quoi.
Non, ce que je ne comprends pas, si vous voulez, pour vous donner un exemple, si on parle un peu d'emploi, si aujourd'hui, par exemple, vous prenez la sortie, par exemple, dans l'environnement, dans les déchets, si on prend les déchets, si vous faites que l'incinération des déchets, vous avez un emploi sur 10 000. Si vous faites une solution écologique, vous avez 10 emplois sur 10 000. Dans une région qui a beaucoup de chômage, pourquoi on ne choisit pas une solution des déchets la plus écologique possible? Si vous regardez l'Uvonne, par exemple, l'Uvonne, il passe de 3 mètres cubes seconde, il peut passer à 300 mètres cubes seconde. Vous savez que c'est une grande inondation à Marseille, peut-être des morts, peut-être des plages fermées, tout ça. L'Uvonne, pourquoi on ne met pas un SAGE, un schéma d'aménagement de gestion d'eau? Un SAGE, qu'est-ce qu'il ferait? Il aurait de l'emploi. Donc vous voyez très bien qu'il y a de l'emploi. Aujourd'hui, le parc national des Calanques, qui va avoir à peu près entre 80 et 100 emplois directs. Ce sont des emplois, vous voyez très bien qu'on a de l'emploi, on a du tourisme, on a des choses à faire, mais si ça, on ne l'organise pas comme il faut, si ça, pour une part, à haut niveau de l'État, il veut couper, il veut continuer à couper, pas renouveler les fonctionnaires qui partent, et on commence à réduire les fonctionnaires dans les écoles, et on commence à faire ça, même à un moment venu, je me rappelle, parce que j'étais à l'Office central de la coopération à l'école, tous les chargés des bibliothèques et des écoles, c'était des emplois aidés, c'était des CDD. Donc vous voyez très bien, on avait monté tout ça pour compléter des choses à l'école. Aujourd'hui, il n'y a même pas ça. Ça veut dire qu'on peut même pas, on n'a ni l'employé fixe, ni l'employé. Donc vous comprenez bien, dans l'informatique, et là aussi, je pense qu'il y a un gros problème entre l'offre et la demande. À un moment venu, par exemple, on parlait d'informatique. L'informatique, par exemple, c'était tout le monde va trouver l'emploi. On se trouvait vraiment, vraiment avec un gros problème, si vous voulez. Donc, j'aimerais que vous me dites, comme résultat, comme la fin de cette émission, un peu quels, d'après vous, sont les emplois possibles? Quels sont les titres d'emploi pour qu'on donne envie aux gens? Je vois les emplois dans les déchets, les emplois dans les patrimoines, les emplois de suivi, les emplois de services. On a les emplois de nettoyeurs de rivières, nettoyeurs de la mer, nettoyeurs macro-déchets. On a plein de nouveaux emplois et qu'aujourd'hui, aucune fac que je connaisse traite les problèmes concrets. Pas au niveau des Bac plus 5, mais peut-être des petits niveaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donnez-nous quelques conseils aux politiques. On va donner des conseils aux politiques. Quels sont ces types d'emplois que vous voyez qu'on a vraiment besoin? L'éducation, par exemple, etc.
Mais surtout que, pardon, je prends la parole. Je te laisserai la parole après, Isabelle.
C'est le mot de la fin.
Au niveau de certaines études qui paraissent, je reviens sur le chantier d'insertion, mais pour 1 euro public investi dans les chantiers d'insertion, il y a un retour sur investissement au niveau de l'économie locale de 5 euros quand même.
Bon, écoutez, mais... les politiques, si vous voulez gagner 4 euros, voilà, vous avez
non,
déjà...
C'est pas gagné. Mais après, non, les personnes vont se remettre à consommer, ouais. vont avoir ouais. Voilà, c'est des répercussions au niveau du local. Et au niveau des emplois, de toute façon, je pense que c'est vrai qu'en France, de plus en plus, on a beaucoup moins d'emplois de services et de petits emplois. Quand vous voyez un petit peu dans d'autres pays, on se rend compte que c'est vrai que c'est des emplois, c'est ça, des petits emplois qui sont pas forcément non plus très bien payés, mais qui permettent d'avoir un statut, qui permettent de vivre et qui permettent d'améliorer les conditions de et les qualités de vie dans les villes et de tous les citoyens, je pense.
Isabelle ?
Oui, mais c'est freiner un peu une tertiarisation de l'emploi, quoi, au final. Et de retrouver effectivement une diversité de postes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en place dans la logique actuelle, un peu à court terme.
Et la dernière question, quel est ton emploi rêvé? Aujourd'hui, tu as un emploi qui est heureuse. Quel est ton emploi rêvé? Si tu devais faire comme ça, qu'est-ce que tu voudrais faire? Parce que ce qu'on ne dit pas, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans des choses qui ne voudraient pas travailler, ne sont pas contents, et qui voudraient faire des choses à côté pour trouver le bonheur. Quel est ton emploi rêvé? Les mêmes, mais CDI.
Déjà.
C'est ça.
Déjà, c'est pas
déjà
mal.
Déjà ça.
Ouais. Effectivement.
Toi, Violaine.
C'est une très bonne question. J'ai toujours
attention, si tes patrons t'écoutent, ils vont te virer. Donc,
j'ai toujours du mal avec ces questions. Pareil, comment tu te vois dans 10 ans? Où est-ce que tu te vois?
Non, je ne vous dis pas ça, dans 10 ans. Je vous dis tout de suite. On vous donne un emploi rêvé. Quel emploi?
Je sais pas, moi je suis bien dans mon poste.
Tout le monde est heureux, donc on peut finir cette émission comme 3 personnes heureuses à Marseille, c'est pas mal. Bon, merci beaucoup de l'écoute et de vos interventions. Et merci à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, c'était une émission sur l'emploi. Et je pense qu'on fera d'autres, parce que l'emploi, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour notre vie.
À merci
bientôt.
À vous. Bonne journée.
Au revoir.
Ça descend mon 4x4, ça descend mon 4x4. Récinération, c'est bon pour les poumons.